Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka l'ingresso in aria ancora, Kaká davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tetto, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo!
E la rete! Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Calcio et Pépé. Comme d'habitude, je suis avec Guillaume Maillard Passini ou Pacini, selon le côté de la frontière où on se trouve. Salut Guillaume.
Salut Johan Crochet, est-ce que je prononce bien ton nom? Crochet.
Oui, c'est bon. Tu peux aller de n'importe quel côté de la frontière, ça restera Crochet, il n'y a pas de problème.
Bonjour à tous.
Alors Guillaume, avant de commencer à parler de Mercato, on va faire deux petits points sur deux choses qu'on doit expliquer et pour lesquelles on a un petit peu travaillé. La première, c'est qu'on va, sous la bannière, entre guillemets, Calcio et Pépé, on va avoir une ligue MPG, donc Mon Petit Gazon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Fantacalcio à la sauce française, pour faire simple. Hein. Donc voilà, on fait des enchères sur des joueurs, chacun a une équipe et récupère des joueurs avec un budget de base. Et ensuite, on s'affronte autour de matchs, et les matchs sont joués, se décident plutôt en fonction des notes des joueurs dans la vie réelle avec l'algorithme de MPG, et il y a un classement et on peut se chambrer et c'est très bien. On va faire deux divisions, Guillaume. On va faire une première division où on a un nombre précis, 8 en l'occurrence, de personnes qui seront dans cette ligue. On vous donnera les noms en temps et en heure, tout est quasiment déjà bouclé. Et puis on a une deuxième, une D2, on aura une série A et une série B. Et en série B, on vous propose à vous, auditeurs, ceux qui aiment ce jeu MPG ou ceux qui veulent y jouer, de nous envoyer votre candidature. Donc envoyez dans les DM de CalcioPP sur Twitter, c'est le plus simple. Et on sélectionnera donc 8 personnes pour faire cette série B. Et puis à la fin de ce concours, entre guillemets, de ce championnat, on fera deux montées et deux reléguées en fonction de qui terminera 7e et 8e de la première ligue. de la Serie A en l'occurrence, et qui terminera premier et deuxième de la Serie B. Voilà Guillaume, on fait ça dans les DM Twitter, sera quand même le plus
bien,
simple.
Très bien, évidemment on invite tout le monde à nous envoyer un petit DM, après on fera en fonction de ce qu'on a reçu, mais en tout cas voilà, ça, c'est une aventure assez sympa, ça nous permet aussi de nous connaître et de
faire participer nos auditeurs.
Exactement, donc voilà, ça peut être une aventure sympa et drôle. Donc évidemment, on vous invite à écrire un petit message sur Twitter. Et ensuite, voilà, on vous tiendra informé des avancées de cette saison de MPG.
Voilà. Et puis la deuxième annonce, c'est lié au podcast du coup. Avec un changement majeur, c'est qu'on va passer du format hebdomadaire à un format mensuel. Alors pourquoi ce choix ? Il y a pas mal de raisons. La première, c'est que ça prend un temps fou et vous pouvez vous l'imaginer assez aisément de faire un podcast chaque semaine avec Guillaume et moi, on regardait à peu près entre 5 et 7 matchs par week-end de Serie A pour vraiment coller et être pertinent. Ça c'est la première raison. La deuxième, c'est que on avait aussi un peu parfois l'impression de se répéter sur certains sujets. C'est difficile chaque semaine, sachant que les supporters du Milan veulent qu'on parle du Milan, les supporters de la Roma veulent qu'on parle de la Roma, les supporters de la Juve veulent qu'on parle de la Juve. Donc on essaye de parler de tout le monde, mais d'une semaine à l'autre, il n'y a pas forcément 50 000 trucs à dire. Et parfois, on s'est trouvé un peu redondant sur certains sujets la saison passée. Alors c'est vrai qu'il y a des clubs qui n'aidaient pas à trouver des sujets.
C'est pas faux.
Voilà, type Milan et Gattuso, type la Roma et son un peu n'importe quoi, ou la Juve qui écrasait tout le monde, pour prendre ces trois exemples-là. Mais voilà, ça c'est la deuxième raison de ne pas être redondant. Et puis la troisième, c'est qu'on voulait aussi développer un côté un peu plus intemporel, avec des thématiques qu'on aimerait développer. Donc pour vous dire comment ça va se passer à partir de début septembre, le premier podcast normalement aura lieu, enfin le premier podcast officiel de la saison aura lieu début septembre, tout début septembre. Ça va se passer de la manière suivante, on va diviser le podcast en deux. Il y aura une première partie qui sera liée à une thématique, liée à la Serie A, à l'histoire de la Serie A, à des clubs. On peut imaginer toutes sortes de sujets, ça peut être... les clubs surprises qui ont gagné un Scudetto, ça peut être le 11 de l'histoire de l'AC Milan, par exemple, Guillaume. Ça peut être des focus mercato, comment la Juve arrive à recruter gratuitement certains joueurs. Ça peut être des interviews aussi, Guillaume, d'anciens joueurs de Serie A. Voilà, il peut y avoir pas mal de thèmes développés. Et puis la deuxième partie, Guillaume, toujours consacrée à l'actu.
Évidemment, disons qu'on s'accorde aussi une petite liberté, par quelque chose, comme tu l'as dit, de plus intemporel, et voilà, qui peut durer plus dans le temps, parce que, comme tu l'as dit, un podcast hebdomadaire, évidemment que ça prend beaucoup de temps, et il faut rappeler aussi qu'on a des métiers à côté, donc, évidemment, et des vies sociales aussi, donc, voilà, on pouvait pas non plus faire une autre saison comme on a fait la semaine dernière, ce qui nous a pris beaucoup de temps, surtout à toi, qui voilà, il faut le dire aussi, a tout préparé, de A à Z, donc, évidemment, on reste avec vous et on va continuer. Évidemment, voilà, on passe à un format mensuel, mais ce qui n'empêche pas, comme tu l'as dit, qu'on fera une partie, évidemment, d'actu où on analysera ce qu'on a vu, nos avis sur tous les clubs, et ensuite une partie plus intemporelle où on s'accorde la liberté, par exemple, voilà, comme tu l'as dit, de faire une interview d'un ancien joueur, de parler d'un club, d'une histoire, voilà, comme on a pu le faire la saison dernière. Mais en tout cas, voilà, on reste évidemment avec vous, mais c'est sûr que le format hebdomadaire prenait beaucoup, beaucoup de temps, mais le format mensuel sera même peut-être plus qualitatif, dans le sens où on aura plus le temps de préparer les choses et on analysera un contenu qui sera plus vaste. Donc voilà, on vous invite évidemment à rester avec nous et à continuer l'aventure ensemble.
Et puis ça évite de faire du match par match et des observations un petit peu plus groupées sur un laps de temps un peu plus long.
Et on peut aussi préciser que avec la nouvelle programmation qui me tient à cœur, tu le sais, quand on fait le podcast un peu lundi soir, qu'on le publie le lundi soir et qu'il y en a directement le vendredi, le podcast est éphémère, il dure même pas 3-4 jours. Donc voilà, c'est beaucoup de travail pour une durée malheureusement trop minime. Donc maintenant, on va avoir plus le temps de préparer et ça sera un podcast que vous pourrez écouter le lundi, le mardi, le dimanche. Et voilà.
Ça sera toujours valable. Exactement. Puisque ce sera des observations groupées sur un ensemble de matchs, sur un ensemble de performances pour des joueurs, sur un ensemble d'analyses.
Une vue d'ensemble.
Sur un entraîneur, on continue toujours à essayer de faire le plus qualitatif possible et à pas tomber dans les trucs, Les trucs faciles, vous savez que ça nous tient évidemment à cœur de faire un... Si on fait un podcast, c'est pour le faire correctement. Il est peut-être temps de parler de Mercato.
Allons-y.
On a fait ces deux mises au point. Alors, on va commencer effet inverse de la dernière fois. On avait remonté le classement du 6e au 1er. Là, on va commencer par le champion en titre, honneur à la Juve. Alors, depuis la dernière fois, Guillaume, il s'est passé pas mal de choses, finalement. On s'était dit, bon, alors, De Ligt a signé. La dernière fois, on était à quelques jours de la signature. Oui. On est quand même sur un transfert de 85,5 millions d'euros, en comptant l'indemnité à l'Ajax et les commissions. Oui. Donc, essentiellement pour Mino Raiola.
Les fameuses commissions.
Voilà. Et puis, on a eu... un départ de Moise Kean pour un montant de transfert global de 30 millions d'euros bonus inclus. Et ce fameux double transfert, on peut pas appeler ça un échange parce que c'est pas vraiment un échange, mais entre Danilo et João Cancelo. Voilà. Bon, ça c'est pour le point précis. Tu veux commencer par quoi, Guillaume ?
Écoute, la première chose qu'on peut dire, déjà évidemment, c'est que le mercato n'est pas fini. Donc que la Juve est plus concentrée à l'heure actuelle sur les départs que sur les arrivées, parce que comme tu l'as dit, niveau arrivée, je pense qu'ils ont ce qu'il faut. Après, on va pas se mentir, comme tu l'as dit, le double transfert Danilo Cancelo a surpris tout le monde. Voilà, après c'était dans l'air depuis quelques semaines, c'était un peu perdu de vue, ça s'était calmé. Et voilà, Cancelo qui était quand même qui a fait une belle saison la saison dernière. Après, il a eu quelques mois un peu en dents de scie. Mais c'est vrai que ce double transfert a pu surprendre, surtout Danilo. Bon, on va pas se mentir, Johan, c'est pas une assurance tout risque. On a pu le voir du côté de City, on n'a pas été très, très impressionné, même au Real.
Je pense que City est ravi de l'envoyer à la Juve pour ce
montant
de transfert.
Exactement, mais la première chose qu'il faut dire, et je pense que tu seras d'accord, c'est que la Juve fait une belle plus-value sur Cancelo en un an.
Ouais.
Voilà, il le vend 65 millions, si je ne m'abuse, et il l'avait acheté 40 à Valence à l'époque, du coup, après un prêt à l'Inter. Donc la Juve a besoin aussi de liquidités, hein. Ils s'en cachent plus, il y a un besoin de vendre, et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle ils sont plus concentrés sur les départs que les arrivées. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas fini, mais voilà, je sais pas toi ce que tu penses.
Mais c'est plus value, Guillaume, c'est aussi les conséquences qu'on peut dire, c'est que c'est les conséquences de plusieurs transferts très onéreux qui ont été réalisés par la Juve ces dernières années. Ça a commencé par Higuain à 90 millions d'euros, quand même.
Exactement.
Il faut s'en souvenir. Ensuite, Ronaldo à 112 millions d'euros. Avec les commissions. Et avec De Ligt, qui est maintenant à 85,5 avec commission. Donc, on est sur un montant global de 270 millions d'euros, à peu près, sur ces trois transferts-là. Donc, évidemment, derrière, avec des salaires aussi très importants, notamment celui de Ronaldo, qui est hors paramètre normalement d'un club italien. Et donc, il faut trouver de l'argent. Le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que la Juve, à un degré moindre peut-être, mais en train de se retrouver un peu dans la situation du PSG suite au double achat Neymar-Mbappé. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés d'affaiblir un peu le banc, de vendre pas mal de joueurs pour ne pas tomber sous le coup du fair play financier, et donc avoir toujours une marge de manœuvre importante par rapport à ce fair play financier. Et le souci, c'est que sur la durée d'une saison en Italie, on n'est pas sûr que ça se voit encore que cette année, il faudra voir notamment l'Inter de Conte, mais en Ligue des Champions, ça peut aussi jouer des tours, parce qu'il y aura peut-être moins de roulement de joueurs qui aurait pu avoir. Alors on sait qu'avec Sarri, déjà les roulements de joueurs, c'est tout un programme. Si les supporters napolitains veulent communiquer là-dessus, ils le pourront. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils sont en train de vraiment affaiblir la profondeur de l'effectif parce qu'ils ont besoin d'argent pour rester dans les coups du fair play financier. Et aujourd'hui, Guillaume, les fameux 6 joueurs dont tu as parlé, Sarri.
Exactement.
Alors déjà, ce qu'on peut dire sur cette déclaration, c'est que c'est très étonnant et j'ai envie de dire très peu Juve compatible. C'est-à-dire qu'un entraîneur permet d'annoncer haut et fort comment ça va se passer d'ici à la fin du mercato, les 20 derniers jours de mercato, en expliquant que la Juve est un peu en difficulté et qu'il faut vendre à tout prix. Et ça met pas Paratici, Guillaume, dans les meilleures conditions pour négocier des deals ensuite.
Évidemment, on s'était un peu parlé en off à ce sujet-là, mais comme je te racontais, c'est comme si demain, un club arrive et va demander à la Juve, on va dire Paolo Dybala parce que c'est l'exemple le plus éclatant. Mais évidemment qu'avec cette déclaration, tu peux comprendre que le club qui est intéressé va dire « Attendez, moi j'ai vu votre entraîneur qui a dit que vous deviez vendre à tout prix, donc vous vous doutez bien que je ne vais pas payer le prix fort. » Donc on va dire que la déclaration de Sarri n'est pas la Juve dans une bonne posture, même au niveau des négociations avec les joueurs partants. On sait qu'il y a Matuidi, on sait que Mandzukic était aussi sur le départ, Dybala, évidemment j'en parlerai à l'instant. Mais c'est vrai que cette déclaration de Sarri a été un peu surprenante. Je pense qu'elle a aussi surpris Paratici parce que voilà, lui essaye aussi de vendre plusieurs joueurs. Dybala, on va en parler parce que c'est quand même un sujet qui fait beaucoup parler. Dybala, en soi, on connaît toutes ses qualités, malgré sa saison dernière qui a été, on va dire, un peu catastrophique, un peu, on peut y aller,
oui.
Très, très difficile. La Juve doit se séparer parce que, comme tu disais, il y a ce besoin de liquidité. La Juve ne s'en sépare pas avec un grand sourire en disant Dybala est mauvais, du coup on le vend. Non. La Juve s'en sépare aussi parce qu'ils ont besoin d'une rentrée d'argent. Et donc maintenant, les négociations après l'éclat de Sarri, ça reste compliqué, surtout quand on rappelle que le marché anglais est terminé. Il y a plusieurs touches en Angleterre, ça ne s'est pas fait. Mais en tout cas, sur le cas Dybala, maintenant, au niveau des négociations, ça va être compliqué, tu vois, de viser peut-être le prix qu'ils auraient voulu. Parce que, comme je t'ai dit, demain, un club se pointe à la Juve et demande Dybala. Ils savent que la Juve n'est pas en bonne posture. Forcément, ils vont la jouer au rabais. Ils savent qu'à un certain moment, la Juve aussi peut reculer et peut-être le vendre à un prix plus inférieur de ce qu'ils voulaient.
Bien sûr. Alors, les 6 joueurs qui sont dans cette fameuse liste, on va faire un point sur ouais. chacun d'entre eux. Donc, Dybala, le premier, c'est évidemment le joueur avec la plus grosse valeur marchande de la liste. C'est un cas un peu épineux parce que ce que j'avais expliqué, je me souviens, dans un des derniers podcasts de la saison, c'est que Dybala te pose une sorte de dilemme tactique où en fait son meilleur poste est derrière un attaquant et ça exclut pas mal de schémas. On sait qu'Allegri avait essayé de le mettre côté droit, ça a été une catastrophe. En pointe, je suis pas persuadé qu'il ait les caractéristiques pour être un grand numéro 9. Donc derrière, si tu veux forcément le mettre en 10 ou en second attaquant, t'as pas 50 schémas pour l'intégrer, et sauf que Sarri ne joue pas avec ce type de schéma habituellement, donc je suis pas persuadé qu'il rentre, techniquement évidemment qu'il rentre dans n'importe quel plan, parce que c'est un joueur d'une qualité exceptionnelle.
Bien sûr.
Maintenant, il est aussi difficile à intégrer parce qu'il faut lui trouver la meilleure place sur le terrain et que c'est pas un joueur qui va pouvoir s'adapter facilement ou qui a la possibilité d'être polyvalent sur plusieurs postes. Et ça, je pense que ça joue aussi dans le fait que la Juve cherche à s'en séparer. Son montant de transfert, on est sur quoi ? Alors, on peut aussi rappeler quand même que c'est un joueur qui a un mental peut-être pas fragile, mais c'est pas un joueur à toute épreuve de toutes les difficultés tout au long d'une saison. Hein. C'est un joueur qui, moi, je trouve, est un peu friable mentalement, qui a besoin d'être dans des conditions ouais. voilà, idéales pour performer. Et ça, forcément, à la Juve, et c'est un peu un handicap parce que on sait quel type de joueur marche à la Juve et quel type de profils sont ciblés aussi mentalement par le club. Son prix, Guillaume, à peu près, l'évaluation, c'est quoi, 70 ?
Ouais, exactement, entre 60 et 70, je pense que ce serait un bon deal pour la Juve, je pense que c'est ce qu'il réclame. Et si c'est les prix, on va dire, c'est la fourchette de prix avec laquelle la Juve a discuté avec les clubs anglais concernés, donc Manchester United et Tottenham.
Le deuxième joueur, toujours dans le rayon offensif de la Juve, est Gonzalo Higuain. Alors là, c'est un peu le casse-tête pour Paratici et la Juve, et parce que lui, visiblement, et d'après les déclarations de son agent frère, tout son frère agent, on ne sait pas trop, lui ne veut pas bouger. Il faut aussi le comprendre, c'est qu'il a un salaire très confortable. Il est avec Sarri, qui l'apprécie beaucoup. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas 50 courtisans non plus pour Higuain, parce qu'il reste sur 2 échecs retentissants, 2 sur la même saison, dans 2 clubs différents, avec 2 styles de jeu différents, au Milan déjà, première partie de saison, et deuxième partie de saison, à Chelsea avec Sarri, où ça s'est pas super bien passé non plus en termes de performance. Donc voilà, qui aujourd'hui peut venir mettre... Alors c'est pareil, l'évaluation d'Higuain...
Ouais.
C'est quoi C'est difficile, hein.
C'est compliqué.
J'ai envie de prendre fourchette large en disant entre 30 et 50, mais
comme tu l'as dit, il arrive d'une saison compliquée, c'est un euphémisme. À Milan, c'était catastrophique. À Chelsea, c'était guère mieux. C'était déjà sous Sarri. Donc la première chose qu'il faut dire, et tu l'as dit, c'est que lui, en plus de ne pas vouloir bouger de la Juve où il est plutôt bien, et où il avait d'ailleurs très mal pris son départ, tu te rappelles, la saison dernière, et c'est d'ailleurs, à mon avis, ça qui a fait que sa saison était compliquée, c'est que lui s'est senti, on va dire, viré de la Juve, mais quand il est parti à Milan, il s'est senti un peu éjecté. Il n'avait pas forcément envie d'aller à Milan. Ouais. On l'a bien vu rapidement, où il est vite devenu les Higuain, qu'on n'aime pas forcément, mécontent, qui crie après ses coéquipiers. Et son départ à Chelsea, voilà, a pas été beaucoup mieux. Mais en tout cas, lui est certain de son côté de pouvoir s'imposer encore à la Juve. Et c'est pour ça qu'il veut rester. C'est parce qu'il pense qu'il peut encore donner au football européen. Et il est persuadé qu'il a encore sa place à la Juve. Écoute, s'il se remet dans un bon mood et qu'il a envie de s'imposer, bon, honnêtement, moi, j'y crois guère. Après, si décide de redevenir le Gonzalo Higuain qu'on a connu, bon, bah, ça peut peut-être marcher. Mais honnêtement, si c'est le Gonzalo Higuain de la saison dernière, moi, ça me paraît assez compliqué. Mais à part la Roma, qu'il a vraiment voulu et où on a parlé, via Petrarchi, pardon, qui en a parlé en conférence de presse, il n'y avait pas non plus, on va dire, beaucoup de clubs, on va dire, européens, qui le voulaient. Donc, lui, il refuse la Roma et lui, il veut vraiment rester à Juve. Donc, c'est vraiment une épine dans le pied. Et à mon avis, elle va rester au moins pour une saison supplémentaire.
Autre joueur offensif, encore, décidément, le secteur offensif souffre pas mal, Mario Mandzukic.
Ouais.
Alors lui, c'est vraiment un sacrifice financier, parce que moi, je trouve que c'est un joueur très important dans un effectif. On se souvient quand même que l'année dernière, il a certes beaucoup moins marqué que Cristiano Ronaldo, mais il a marqué dans absolument tous les grands matchs du championnat italien.
Bien sûr.
Il a marqué contre la Roma, de mémoire, enfin tous les grands clubs, hein. Il a dû marquer contre Naples aussi. On avait fait le détail la saison dernière. C'est un joueur très combatif qui est très très utile dans les matchs justement très compliqués. Alors aujourd'hui, quelles sont ses possibilités? On sait qu'il y avait des discussions avec Manchester United, mais comme le marché maintenant est terminé, c'est compliqué. Quelles sont les possibilités aujourd'hui
Écoute,
de Mandzukic? Parce que c'est pareil, c'est un joueur qui a un gros salaire. Alors l'indemnité sera sans doute moindre, hein, j'imagine entre 15 et autour de 15 millions peut-être, 15-20, mais il a un très gros salaire.
Ouais, il avait aussi des offres exotiques, hein, voilà, dans les pays où le football forcément n'est pas celui européen. Mais à la fin, je pense que c'est d'accord, à mon avis, il va aussi rester. Et c'est vrai que l'année dernière, moi, je l'ai trouvé très bon. Il était décisif tout le temps, il était décisif contre Milan, il avait égalisé contre l'Atalanta en fin de saison, si je me souviens bien. Enfin, c'est un joueur, très utile, et dans les sacrifices, et tactiquement, et dans plusieurs cas. Mais là, vous voulez aussi s'en séparer parce que son salaire est important. Malheureusement pour elle, elle va probablement pas y arriver parce que son courtisan, on va dire Manchester United, maintenant peut plus recruter. Ils peuvent vendre, ne plus recruter. Donc, voilà, c'était vraiment les deux joueurs que la Juve voulait vendre devant, pour faire sûrement une place à un certain Mauro Icardi, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, à moins d'un coup de théâtre ou d'une surprise, Mandzukic et Higuain resteront à la Juve.
Et puis on va faire un petit mot plus rapide sur les trois autres joueurs. On a Rugani en défense centrale, on a Perrin dans les buts. Et le fameux Piazza, qui ne s'est pas imposé à la Juve et ne s'est pas imposé en prêt. Pour lui, c'est assez compliqué après sa grave blessure au genou. Perrin, pareil, des problèmes de blessure lors de sa visite médicale au Benfica.
Exactement.
Ça parlait pas mal de Monaco à un moment donné, ça s'est un peu calmé. Et puis Rugani, ça pourrait aussi jouer du côté de Monaco. Peut-être que quand vous écouterez ce podcast-là, il aura déjà signé.
C'est la magie du mercato.
Voilà, on en parle du côté de Monaco et de la Roma notamment sur un prêt avec option voire obligation d'achat.
Ouais.
Un petit mot sur Icardi, on le dira peut-être du côté, enfin quand on évoquera l'Inter, on va peut-être.
C'est toi qui dessine.
Allez, on passe au Napoli.
Passons en deuxième.
Le Napoli, ça va aller assez vite. Finalement, parce que depuis le début du mercato, ils ont réussi à autofinancer leurs arrivées avec les départs. Pour rappel, les départs: Amadou Diawara à la Roma, Raoul Albiol à Villarreal, Vinicius qui est parti à Benfica, Marco Rogue qui est parti à Cagliari et Inglese qui est parti à Parme. Et côté arrivé, Manolas, Di Lorenzo, le latéral d'Empoli, et le fameux Elgif Elmas, milieu de terrain turc, qui arrive de Fenerbahçe. Grosso modo, on est sur une balance équilibrée,
ouais.
Mais j'ai envie de dire le meilleur est à venir, puisque les deux gros coups qu'attendait le, enfin les trois, parce qu'on peut considérer Manolas comme un gros coup, les deux gros coups vraiment que qu'attendent tous les supporters napolitains et pour lesquels les discussions sont avancées depuis des semaines et des semaines, vont peut-être arriver d'ici la fin du mercato. Il y en a un pour lequel c'est bien parti, c'est Irving Lozano, l'ailier du PSV. Ouais. Alors pour en parler 5 minutes,
que tu connais bien. Ouais.
Voilà, c'est un championnat que je suis évidemment beaucoup. C'est un joueur très très intéressant. Moi, là où je le trouve le meilleur, sans doute, c'est quand il est lancé, parce qu'il a des dribbles déroutants, mais c'est pas des dribbles arrêtés. C'est pas un joueur qui va faire des différences en étant arrêté, comme certains qui jouent sur l'explosivité, sur les premiers mètres, etc. Lui, c'est plus déjà, il est infatigable, il a une caisse incroyable, c'est un tout petit gabarit, évidemment. Il a les deux pieds, alors les deux pieds en conduite de balle, en dribble, c'est intéressant. Et une fois lancé, il a une palette d'exécution de gestes techniques, une fois lancé, qui est assez intéressante. C'est un bon finisseur également. Je pense qu'en termes de passes décisives, il peut encore faire mieux et parfois jouer un peu plus avec ses coéquipiers. Mais c'est un joueur qui va apporter beaucoup de qualité et surtout de choses différentes que pouvait apporter par exemple un joueur comme Cayeron. On sait que c'était vraiment le fameux centre à l'opposé, deuxième poteau Cayeron, ou des sprints un peu tout droit. Cayeron n'a pas la technique de Lozano, n'a pas sans doute pas la qualité de finisseur de manière générale de Lozano. Donc voilà, c'est un joueur que j'ai vraiment hâte de voir à un niveau un peu plus important, sachant qu'il joue aussi sur les deux côtés. Au PSV, il jouait côté droit puisque Bergwijn occupait l'aile gauche, et au Mexique, il jouait aussi il jouait côté gauche. Donc il peut jouer sur les deux ailes sans aucun problème. Donc ça, c'est pour Lozano. Et l'autre, Guillaume, c'est James Rodriguez.
Évidemment, James Rodriguez, qui est, on va dire, un peu le rêve depuis le début du mercato, qui était proche de se réaliser selon la plupart des médias il y a quelques semaines. C'est pas fait. Il y a eu aussi les rumeurs qui ont envoyé Atletico. C'est pas fait non plus. Alors pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? C'est simple. Le Napoli, via son président Aurelio De Laurentiis, réclame et veut toujours un prêt. Voilà, De Laurentiis l'a souvent confirmé, l'a souvent expliqué. Il comprend pas pourquoi le Bayern a eu un prêt de 2 ans. Et quand le Napoli arrive et toque à la porte du Real, le Real dit non, on veut un transfert définitif. Et du côté du Real, on veut évidemment monétiser son départ. On veut vendre James Rodriguez avec un départ définitif, avec un transfert définitif. Et donc voilà pourquoi ça bloque entre le Real et le Napoli. Alors évidemment, ça pourrait se débloquer d'ici le 2 septembre, date de clôture du mercato en Italie et je crois aussi en Espagne. Mais évidemment, voilà, c'est le grand rêve du Napoli qui le lâche pas. Mais c'est sûr que voilà, on connaît aussi De Laurentiis en négociation. Il est très fermé, il reste souvent sur ses positions. Et Pérez, côté Real, on le connaît aussi. Donc c'est vrai que les deux présidents qui négocient ensemble, ça doit être vraiment émettre une petite fourmi pour assister, ouais, aux négociations. Mais en tout cas, voilà pourquoi ça bloque. C'est parce que la formule de transfert est différente en fonction des deux clubs. Donc évidemment, ça peut encore changer avec la fin du mercato qui approche. On sait très bien que les positions peuvent évoluer, surtout dans la panique. Donc voilà, mais voilà.
Mais il peut y avoir aussi une petite aide financière, Guillaume, qui pourrait arriver de la cession de plusieurs joueurs côté Napoli. On sait que depuis le début du mercato, ils essayent de vendre Simone Verdi, sauf que pour le moment, c'est toujours pas le cas. Le Torino était un temps intéressé, mais ils espèrent le vendre 20 millions d'euros, donc c'est aussi une vraie somme.
Ouais, ouais.
Et il y a aussi Adamounas, qui est toujours là. Lui qui, pour le coup, en cas d'arrivée de Lozano, c'est directement lui qui va pâtir de cette arrivée. Donc il y a aussi Ounas qu'il faudrait vendre, et puis il y a Isai, alors peut-être du côté de la Roma, peut-être ailleurs, mais c'est peut-être des ventes qui vont permettre d'offrir le budget pour ne plus rester figé sur un prêt, mais pour avoir un transfert définitif.
Exact, mais tu sais, le problème en soi, c'est que tu vois, tu me parles de beaucoup d'opérations, et que le temps presse.
Ouais.
Et que une fois que tu as fait comme ces trois opérations à côté de départ, après il faut encore que tu aies négocié avec le Real, que tu trouves l'accord avec le Real. On sait que le joueur lui voilà, on va dire un accord oral avec Napoli pour venir. Mais tu vois, on approche quand même de la, on est même mi-août. Donc le Napoli doit aussi se dépêcher parce que le temps presse et que si tu veux boucler l'arrivée de Rames qui forcément serait évidemment le gros coup de l'été pour le Napoli avec Lozano, mais qui est peut-être moins médiatique, évidemment, ouais, qu'on connaît, mais qui est moins médiatique. Donc voilà, le Napoli doit se dépêcher parce que le mercato ferme bientôt ses portes et que si tu veux faire Rames et les trois départs que tu as cités, tu les feras pas en deux ou trois jours, donc méfiance.
Et puis il y a, comme pour la Juve et une rumeur Icardi, on en parlera quand on évoquera l'Inter juste derrière. Rien d'autre à dire du côté de
écoute, je pense
du Napoli.
Je pense qu'on
a fait le tour.
Allez,
on passe du coup à l'Inter, troisième, ouais, du dernier, quatrième du dernier championnat, pardon, ouais, puisque l'Atalanta. Alors l'Atalanta, on le fera dans le reste de la Serie A, puisque depuis la dernière fois, il ne s'est absolument rien passé. Donc on l'évoquera très très rapidement. Du côté de l'Inter, Guillaume, Antonio Conte tient enfin son Romelu Lukaku.
Depuis le temps qu'il l'a voulu. C'était un joueur qui l'a suivi quand il était à Chelsea, qui l'a réclamé à plusieurs reprises et ce n'était pas fait. Et c'est vraiment un attaquant qui lui plaît beaucoup, son profil. On sait que Conte adore ce profil d'attaquant un peu fort, rugueux. Lukaku, ce qu'on peut dire, c'est que physiquement, c'est vraiment un monstre, une bête. Donc voilà, il le tient enfin. Les négociations ont été longues, intenses. Il y a eu beaucoup de suspense, de rebondissement avec la Juve aussi qui le voulait. Alors, info, intox, bluff, ça restera et je pense qu'on aura plus d'infos quand les langues vont commencer à se délier. Mais en tout cas, voilà, la Juve, du moins, était aussi intéressée par Lukaku. Alors, le deal s'est bouclé pour 65 millions, plus bonus et plus un pourcentage à la revente. Donc, on s'approche quand même beaucoup des 83 millions demandés par Manchester. Donc, toutes les parties sont contentes dans cette affaire-là. Mais voilà, l'Inter tient enfin ce numéro 9 et dans tous les sens parce qu'il prend aussi le numéro 9 d'un certain Mauro Icardi qui continue de passer ses jours au lac de Côme en vacances. Donc voilà, mais en tout cas, Lukaku, on peut dire que c'est l'un des gros coups de ce mercato en Serie A.
Alors, du côté des départs, depuis la dernière fois, parce qu'on avait déjà parlé de Barella, déjà parlé de Lazzaro, d'Agoumé et de Godin,
de Sensi
Sensi aussi également. Du côté des départs depuis la dernière fois, on peut noter Joao Miranda,
ouais,
qui lui est évidemment totalement. Dont l'avenir était bouché par l'arrivée de Godin, qui part en Chine dans le club de Jiangsu aussi. De Rajan Nainggolan qui retourne à Cagliari, on y reviendra un peu plus tard, et d'Ivan Perisic, ça s'est bouclé, alors on enregistre, on est le mercredi 14 août, ça s'est bouclé il y a quelques heures, Guillaume.
Oui, c'est voilà, un prêt payant avec option d'achat à 20 millions d'euros pour Perisic. Voilà, Conte l'a testé, tu te souviens, il avait essayé en dans son 3-5-2 en attaque,
en piston gauche,
exactement, il avait aussi essayé en pointe. Et voilà, les deux essais n'avaient pas été concluants.
Ce qui n'est pas surprenant non plus. Hein.
Non, on pouvait s'y attendre, mais bon, au moins Conte a essayé. Et dans la foulée de ces matchs amicaux, il a dit à ses dirigeants que voilà, Perisic ne rentrait plus dans ses plans. Et un peu comme Nainggolan et un peu comme Icardi, voilà, il était sur le départ. Et ça s'est fait avec le Bayern. On peut dire que voilà, la solution à Rochemont, même Perisic, tu te souviens, n'était pas très. T'es plus trembleur de sainteté en côté Inter, les supporters l'avaient aussi un peu pris en grippe. La saison dernière où ça avait été compliqué, c'était fait parfois siffler. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est un bon deal pour tout le monde. Perisic dans le 3-5-2 de Conte n'avait pas sa place. Donc voilà, je pense que le deal est bon et pour le joueur et pour l'Inter qui se débarrasse d'un gros salaire et le joueur en soi ne rentrait plus dans les plans de Conte.
Alors, ce qu'on peut attendre du côté de l'Inter encore d'ici la fin du mercato, il y a le fameux échange Biraghi-Dalbert, dont
oui,
on parle pas mal, entre l'arrière-gauche de la Fiorentina et donc le latéral-gauche, ancien joueur de l'OGC Nice. Très honnêtement, si la Fiorentina accepte cet échange, c'est... J'ai pas trop de mots.
Ouais, écoute,
je vois une vraie différence de niveau quand même entre les deux joueurs.
Pour le petit mot, disons que Dalbert fait quand même une bonne pré-saison. Ouais. Alors chez IPAC, voilà, c'est devenu un grand latéral.
Dans une défense à 5, enfin dans une défense à 3.
Exactement, disons que voilà, contrairement à ce qu'on a pu voir les saisons dernières, depuis son arrivée à l'INCA, il réalise quand même une bonne pré-saison. Après, voilà, Biragi, on a quand même vu ses qualités. C'est quand même un joueur qui apporte beaucoup de garanties. Moi, j'aime beaucoup aussi son élan offensif. Moi, j'aime beaucoup les latéraux qui fixent la tête haute, qui centrent. Pas les latéraux qui font un peu comme en Italie, le compiti, le petit devoir de faire la passe. Et puis après, voilà, on ne monte plus et on ne dédouble pas. Donc, c'est vrai que c'est un échange qui serait surprenant. Mais tout ce qu'on peut dire sur Dalbert, c'est qu'au moins, cet été, on va dire qu'il est assez convaincant et que Conte, en soi, elle est pas mal convaincue. Donc à voir si cet échange ira au bout.
Et puis, côté départ, l'Inter espère vendre Joao Mario.
Oui.
Pas simple, hein. C'est un peu le cas depuis... C'est le troisième été, je crois, qu'ils essayent de vendre Joao Mario.
Il est parti en prêt.
Le troisième, il me semble. 2017, 2018, 2019. C'est toujours un peu compliqué. Lui, il est bien, il a un bon contrat. Ses performances sont pas dingues. Sont pas mauvaises non plus, mais sont pas dingues. Donc c'est un dossier qui est toujours compliqué. Et puis il reste le cas, le fameux cas, le cas épineux, Mauro Icardi. Que va-t-il se passer avec Icardi ? Aujourd'hui, tous les scénarios, honnêtement, ou scénarii, sont envisageables. Clairement, le premier, c'est qu'il reste. Alors ça, du côté de l'Inter, on espère que ça va pas se produire. Parce que pour différentes raisons, il y a déjà un aspect économique, il faut y penser. C'est que Icardi a un très gros salaire, ça c'est la première chose. Deuxième chose, pour des questions aussi d'équilibre, de vestiaire, de santé mentale d'Antonio Conte, je sais pas comment on peut le dire, mais ouais. Mais voilà, il y a aussi un aspect hors terrain où il va falloir gérer un joueur de ce calibre avec son agent. Wanda Nara, qui a des émissions de télé, qui balance beaucoup de choses sur le vestiaire. Et si Icardi n'a plus le statut d'intouchable, bah, je vois pas pourquoi elle se priverait de balancer des petits secrets de vestiaire. Elle le faisait déjà pas quand il était intouchable. Je vois pas pourquoi elle ne le ferait plus maintenant. Donc c'est un cas très très compliqué à gérer. Il peut rester à l'Inter. Les autres options, clairement, il y a la Juve, dans le cas d'un transfert, mais j'ai du mal à
voir un possible échange avec Dybala.
Ouais, hypothétique. Et il y a la Roma, mais je vois pas comment la Roma peut mettre autant d'argent. Alors on sait qu'ils peuvent inclure Dzeko dedans, mais même en incluant Dzeko, ça veut dire mettre entre 40 et 50 millions d'euros. Je suis pas sûr que la Roma ait cet argent-là une saison sans Ligue des Champions. Et l'autre option, c'est le Napoli, mais même chose, le Napoli a déjà Mertens et Milik devant. Quel est l'intérêt d'aller dépenser autant d'argent sur Icardi, même s'il est très fort, etc. Milik met beaucoup de buts, Mertens met des buts. Je pense que s'il y a des priorités à Naples, c'est effectivement plutôt de faire venir Lozano et Rames. Alors après, s'ils font les trois, très bien, hein, mais je doute que De Laurentiis fasse les trois. Donc les priorités pour moi sont ailleurs en Napoli.
Déjà, alors imaginons la première hypothèse, il reste à l'Inter, ce qui serait évidemment pas le point souhaité par le club. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que probablement, voire même très probablement, je pense qu'il aurait une jolie place en tribune ou
en dans l'espace box, de, dans un box à San Siro.
Exactement, dans le box de San Siro avec sa femme et l'agent. Mais en tout cas, à part l'entraînement où il participera parce que l'Inter n'a pas le choix, parce que sinon on sait qu'il peut attaquer l'Inter pour mobbing. En tout cas, disons qu'il ne serait pas dans le groupe de Conte pour les matchs. Ça me paraît évident et qu'il irait, comme tu l'as dit, dans le box de San Siro pour les matchs. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, la volonté du joueur. Qu'est-ce que veut Icardi ? Où veut-il aller ? De ce qu'il se dit en Italie, hier, j'ai regardé un peu Sky Italia, il se murmure, on va dire, que Icardi se donne encore une semaine de temps pour décider où aller. On a cité la Roma, le Napoli. Lui, on sait que sa volonté et son envie, c'est de rejoindre la Juve. La Juve qui, on va dire, au courant du mois de juillet, via Paratici à Ibiza, qui a rencontré Vandanara, lui a dit, écoute, en gros, hein, moi j'étais pas, mais bon, je resitue un peu la chose. Il lui a dit, écoute, en gros, attends que le mercato avance, mais nous, on t'assure qu'on va faire une tentative vers la fin du mercato, quand l'Inter sera un peu aussi en panique pour se séparer d'un joueur, comme tu l'as dit, qui est encombrant.
Quand la Juve, je me permets de te couper,
vas-y,
aura réussi à vendre des joueurs qu'elle doit vendre, ce qui n'est toujours pas le cas pour
exactement
le moment.
Exactement, c'est le même problème. Voilà. C'est le même problème, on sait, comme on ne va pas revenir dessus, mais la Juve voulait séparer d'Higuain et Mandzukic pour faire une place à Icardi. Sauf que Higuain et Mandzukic, ce jour-là, du coup, Icardi ne peut pas aller à la Juve parce que la Juve n'a pas fait d'offre à l'Inter. Du coup, l'Inter, qui voudrait Dzeko, ne peut pas parce que la Roma n'a pas de remplaçant, qui serait soit Icardi, soit Higuain. Donc en fait, il y a une espèce de triangle amoureux qui est impossible à résoudre parce que pour le moment, tout le monde campe plus ou moins sur ses positions. Et Icardi, mis à part une légère ouverture au Napoli et à la Roma, honnêtement, lui, il veut vraiment aller à la Juve. Et moi, je pense que la Juve va quand même essayer d'ici à la fin du mercato de le recruter parce qu'ils ont assuré à son agent qu'ils allaient faire une tentative. Mais après, c'est vrai que c'est quand même un cas qui, on peut le dire maintenant, honnêtement, Johan, qui est quand même mal géré.
Oui, bien sûr.
En arriver là, moi je comprends, on sait ce qui s'est passé derrière, on va pas revenir dessus, mais je pense qu'il y a forcément quelque chose soit dont on n'est pas au courant ou qu'on apprendra peut-être plus tard, mais en arriver là, tu vois par exemple, Nainggolan n'était plus désiré, on le savait, il s'entraînait quand même, il était sur le mercato, il est parti, mais du moins, tu vois, il y avait quand même un minimum de garantie. Ouais, exactement, de respect. Icardi, honnêtement, c'est devenu un pestiféré. Il peut même pas mettre les pieds à Pino Gentile. Alors, il le fait pour s'entraîner parce que l'Inter n'a pas le choix. Mais si l'Inter pouvait, c'est sûr que
Icardi lui interdirait l'accès.
Exactement. Il veut dire qu'il pourrait même pas passer les barrières pour aller s'entraîner. Donc, c'est vraiment radical. C'est vraiment devenu un pestiféré. Et l'Inter n'en veut plus du tout. Lui, Icardi demandait juste à faire ses preuves et à convaincre Conte, parce que Icardi est conscient que Conte est quand même un grand coach et que il voulait jouer ses cartes aussi. Mais on peut dire quand même qu'en l'espace de quelques mois, il est passé de capitaine de l'Inter, en plus super buteur, à un pestiféré à l'Inter. Donc c'est vrai que c'est une situation qui est assez incroyable et que le cas quand même est sacrément mal géré
sportivement et économiquement d'ailleurs.
Évidemment, mais c'est vrai que moi je te laisse imaginer si Icardi reste.
On aura un feuilleton dingue pendant au moins 6 mois jusqu'au mercato d'hiver.
Ouais, ça serait assez incroyable. Mais bon, à la fin, moi, je pense, comme je l'avais fait la dernière fois, je refais mon petit pari. Je pense quand même qu'au final, il ira à la Juve. Alors, peut-être que je me trompe, mais écoute, je pense qu'au final, il partira parce que j'ose pas imaginer une carrière rester à l'Inter des mois en plus, alors que on le voit sur ses stories Instagram. Il passe ses journées à Côme, à s'entraîner avec ses gosses. Enfin, c'est quand même une situation très triste pour l'attaquant qu'il est, pour le joueur qu'il est. Alors après, on va pas revenir sur les causes de cette séparation avec l'Inter. Mais en tout cas, on est arrivé là, je trouve ça dommage pour lui et pour le club.
Alors du côté du Milan, du voisin milanais, Guillaume, il s'est passé beaucoup de choses depuis la dernière fois.
Que s'est-il passé, Johan ? Dis-moi.
Alors, du côté des arrivées, on avait déjà eu Krunic et Hernandez, Théo Hernandez. Oui. Et on a ajouté du côté des Rossoneri, Duarte en défense, 11 millions d'euros, défenseur central du coup. Rafael Leao, 35 millions d'euros, attaquant du LOSC. Et Ismaël Benacer, 16 millions d'euros, révélation entre autres joueurs, parce qu'il y en a eu quand même pas mal à Empoli la saison dernière. Du côté des départs, on a eu simplement Diallo, qui est parti à Lille dans le chemin inverse de Leao, et puis Coutronnet. Alors moi, je suis un peu déçu de le voir partir, mais qui est parti pour 18 plus 4 millions d'euros à Wolverhampton. Alors, Guillaume, si mes calculs sont bons, et je pense qu'ils sont bons, le Milan va, alors sachant qu'il peut encore se passer des choses, mais pour l'instant, à l'instant T, ce mercredi 14 août à 14h38 exactement, le Milan a une balance des transferts négative de 65 millions d'euros.
Tu as fait des calculs.
Ouais.
Je vois que tu as fait des petits calculs. Écoute, moi je reviens sur Coutronnet, tu sais que tu étais déçu, je pense que tout le monde l'est, même pour le football italien, parce qu'on sait que c'est un attaquant qui est en devenir pour la nationale. Alors pourquoi il a été vendu ? C'est ce que j'essaie d'expliquer au Tifosi, c'est que c'était pas à choisir. Évidemment que Milan l'aurait gardé. Le problème, c'est qu'il y a l'UEFA qui rôde. Milan, le rappeler, était exclu. Du moins, a trouvé un accord pour être exclu, en gros, être s'auto-exclure de la Ligue Europa pour avoir plus de temps pour atteindre l'équilibre et rentrer dans les clous du fair play financier. Mais en tout cas, voilà, Coutronné est un sacrifice. Ce n'était pas une volonté totale de s'en séparer. C'est juste que voilà, pour un jeune joueur qui a été formé au club, faire une plus-value nette de 18 millions d'euros plus éventuellement les bonus, c'était trop, trop important. Donc voilà, le club a décidé de le sacrifier. C'est évidemment pas simple parce qu'on sait que lui, on l'a bien vu sur les vidéos, n'était pas forcément très heureux d'en rejoindre Wolverhampton. Mais en tout cas, voilà, Milan a saisi l'occasion parce que en soi, le club n'avait pas le choix. Après, sur la balance négative, on est conscient qu'il pourrait y avoir aussi un autre départ. André Silva, par exemple, qui est parti à Monaco, n'est pas parti. On sait que c'était un transfert autour des 30 millions, donc c'était déjà une belle enveloppe. Le mercato est encore long, on sait que Souza, Donnarumma, voilà, on lit souvent leur nom dans les journaux. Souza, on sait qu'il va à la Fiorentina, mais honnêtement, j'ai du mal à le voir partir à la Fiorentina. Et Donnarumma.
La Fiorentina pourra jamais payer son salaire de 4 millions d'euros net annuel. Voilà. C'est impossible.
Et Donnarumma. Alors, tout d'abord, ce qu'on veut dire sur Souza et Donnarumma, c'est que les joueurs ne sont pas sur le mercato. Par contre, c'est ce que je me tue à expliquer, c'est que si demain, le PSG, par exemple, se pointe avec une offre de 80 millions, utopique, mais une offre de 80 millions pour Donnarumma, évidemment que Milan va l'accepter. Parce que aucun joueur n'est intransférable. C'est pas possible. Au vu de la situation du club, il y a des joueurs qui sont moins vendables, évidemment, que les autres. Par contre, il n'y a aucun joueur qui est invendable. Voilà. Donc, demain, Souzour reçoit une offre de 45 millions d'euros. Évidemment que même si Milan ne veut pas forcément le vendre, ils vont accepter l'offre parce qu'ils sont conscients qu'il y a ce besoin de vendre. Mais en tout cas, voilà, du côté positif, et je pense que tu seras d'accord, c'est l'arrivée de Ismaël Benacer, 16 millions d'euros. Ouais. L'avoir bouclé avant la CAN, je trouve quand même que c'est un super coup pour le milieu de terrain.
Alors moi, j'ai une petite question avant de rebondir sur Benacer.
Dis-moi.
Et si Milan n'arrive à vendre personne, il se passe quoi?
Écoute, si Milan n'arrive à vendre personne...
Parce qu'on finit le marché des transferts avec 65 millions d'euros de...
Écoute, il faudrait que je fasse mes comptes. Alors, du coup, t'es certain que c'est 65 millions d'euros?
J'ai Krunic à 8 millions d'euros, Théo Hernandez à 20 millions, Duarte à 11 millions, Raphaël Léao à 35 millions, Benacer à 16 millions.
C'est vrai que ça fait beaucoup. Non, mais c'est probable. Après, je te dis, d'ici à la fin du mercato, je pense qu'il y aura un ou deux départs. Donc, on va dire, voire même petite deux. Et il faut aussi rappeler...
Oui, mais le souci, c'est... Enfin, tu vois, moi, je comprends la logique, mais qui va partir? Pour quelle somme et qui est capable aujourd'hui d'offrir les salaires que le Milan offre à un joueur comme Souza et Donnarumma?
Mais c'est le même problème qu'ailleurs. C'est le problème
parce que clairement, Donnarumma,
joueurs...
la seule porte de sortie, c'est le PSG. Soyons
oui.
clairs.
Oui.
Il n'y a pas d'autre porte de sortie.
Non.
Souza, c'est 4 millions d'euros net annuels. Et donc, s'il part,
c'est
un 3
contrat, millions c'est... plus bonus. Ouais. Exactement.
C'est un contrat de 4 ou 5 ans, hein, on ne va pas se mentir, s'il part. Et en indemnité de transfert, même si on joue. Fourchette basse, c'est entre 30 et 40. Quel club aujourd'hui est prêt à investir 30 à 40 millions d'euros plus on va dire 4 millions de net de salaire sur fois 4 ou 5 ans sur Souza?
De toute façon, Souza n'a pas, enfin, Milan n'a pas reçu d'offres à la hauteur de ce qu'ils veulent, donc au moins 30-35 millions d'euros. Donc voilà, pour le moment, ça, on peut déjà l'évacuer. Après, évidemment, je te dis, on fera un épisode après le 7 août, on fera les comptes. Mais en tout cas, c'est évident que pour le moment, et ils veulent encore Correa.
Ouais.
Donc c'est évident. Après, écoute, moi, j'ose croire qu'ils savent ce qu'ils font. Boban est arrivé pour aussi apporter un homme de sérieux. Gazidi, c'est là, il connaît bien l'UFA. Donc, écoute, j'ose espérer qu'ils font pas n'importe quoi, qu'ils font ça en conscience de ce que ça pourrait entraîner. Mais écoute, Gazidi, on sait ses relations avec l'UFA, avec l'UFA, pardon. Et Boban aussi avec la FIFA. Donc, écoute, j'ose espérer qu'il y a un minimum de sérieux derrière tout ça et qu'à la fin, ils vont pas mettre le club dans une posture déjà plus difficile qu'elle n'est. Donc, écoute, on fera les comptes à la fin, mais j'espère et j'ai envie d'avoir confiance en les dirigeants du Milan pour pas faire n'importe quoi sur le mercato.
Bien, un autre sujet milanais de ton côté où on passe.
Écoute, comme je l'ai dit, Benacer, bon, pour le côté positif, moi je trouve que c'est un super coup. Duarte, voilà, à voir. Honnêtement, moi j'ai pas vu un seul match, donc je vais pas me prononcer. Hein.
Ah tiens, tu pourrais me parler des matchs amicaux du Milan? Ça donnait quoi
Écoute, les matchs amicaux du Milan, je les ai vus pour la plupart. J'en ai raté un seul, je crois, contre le Bayern. C'était en pleine nuit à 3h du matin, donc j'ai aussi une vie à assurer. Mais écoute, voilà, la grosse différence, avec la saison dernière, on va faire vite, c'est qu'il y a beaucoup plus de verticalité. Le schéma 4-3-1-2, Gianpaolo, évidemment, veut que ça joue en vertical et pas l'horizontal, comme on l'a vu l'année dernière. Et voilà, c'est vraiment le gros changement. L'autre gros changement, c'est le pressing haut à la perte du ballon. Et cette fois coordonné, on a vu quelques briques l'année dernière de pressing haut qui étaient totalement désordonnées et qui mettaient l'équipe dans une mauvaise posture. Mais en tout cas, voilà, les grosses différences, c'est pressing haut. On joue en deux touches aussi et beaucoup plus de verticalité. Honnêtement, moi, j'étais assez agréablement surpris par ce que j'ai vu. Comme je te l'ai expliqué un peu en off la dernière fois, c'est que avec le même 11, parce que pour le moment Bennacer n'est pas encore arrivé, Duarte ne joue pas, il n'y a que Krunic qui est vraiment intégré. Léao a fait ses premières minutes contre un club kosovar samedi dernier. Mais en tout cas, voilà, la grosse différence qu'on voit entre deux mêmes 11 qu'entre la dernière et cette saison, c'est que il y a cette volonté de jouer vers l'avant, de pressing, d'une possession de deux touches maximum. C'est vraiment agréable à regarder. Alors après, tu connais Gianpaolo, donc je t'apprends rien. Mais du moins, je pense que cette saison, on va avoir un peu plus de football côté du Milan. Donc voilà, je suis assez confiant pour ce que propose Gianpaolo. Après, je vois quand même toujours un écart avec des clubs comme l'Inter, comme le Napoli. Par contre, au niveau du jeu, écoute, je pense que ça peut être sympa à suivre cette saison pour Milan.
Et que devient l'entraîneur qu'on envoyait dans les plus grands clubs, qu'on envoyait à la Roma, Gennaro Gattuso?
Écoute, Gattuso, malheureusement pour lui, il n'a pas encore de club.
C'est surprenant quand même. Hein.
Écoute, il a refusé le FC Nantes, ouais. Ce qui s'est murmuré. Écoute, moi, après, j'apprécie beaucoup l'homme, donc je ne vais pas en dire du mal. Après, en tant qu'entraîneur, moi je ne suis pas du tout convaincu. Et ça, je l'assume et je ne vais pas le cacher. Je pense que les gens l'ont compris. Mais voilà, pour le moment, il n'a pas de club. Et d'ailleurs... il y a eu plusieurs fins de contrat à Milan, et je disais ça ce matin, je crois que c'était dans la Gazzetta ou dans un autre journal. Et dis-toi que sur tous les joueurs en fin de contrat, comme Montolivo, comme Bertolacci, comme Abate, il n'y en a aucun qui a retrouvé un club, il y en a un seul qui a retrouvé un club, c'est Zapata, Cassino Genoa.
Qui est au Genoa, ouais.
Ouais, donc voilà, en tout cas c'est curieux, mais tous les joueurs qui sont partis en fin de contrat du Milan, qui avaient un contrat très, on va dire, très onéreux,
généreux,
très sympa.
Ouais.
Hein. Donc, qui restait aussi par confort, hein, parce que Bertolacci aurait pu partir plusieurs fois au Genoa, il n'est pas parti. Et bien, écoute, tous ces joueurs-là, pour moi, on n'a pas retrouvé de club, donc, un peu comme Gattuso. Donc, il y a aussi un grand ménage au niveau des salaires. Tu vois, on parlait aussi tout à l'heure des comptes, mais il y a quand même eu un petit ménage. Le plus gros salaire, évidemment, Ratonaroma à 6 millions d'euros nets par an. Et voilà, en tout cas, non, pour revenir à ta question, Gattuso n'a pas de club. Peut-être que ça changera en cours de saison, tu sais, si, quand le Genoa va décider à
bien sûr,
Pasoli à la 12e journée pour appeler Gattuso, tu sais, on sera pas surpris. Donc,
c'est vrai.
Donc, ça va être un peu l'épée de Damoclès sur plusieurs coachs qui prendront la porte cette saison dans le championnat.
Alors, on va passer à la Roma, 6e du dernier championnat. Alors, beaucoup de mouvements là encore.
Que raconte la Roma
depuis la dernière fois? Donc, on a l'arrivée de Gianluca Mancini. Près 2 millions d'euros, obligation d'achat 13 millions d'euros à la fin de la saison et 8 millions d'euros de bonus. Jordan Veretout, près 1 million d'euros, obligation d'achat 16 millions d'euros, bonus 2 millions supplémentaires. Du côté des départs, depuis la dernière fois, on a dû avoir Gerson, Ivan Marcano et Karsdorp en prêt, sachant que Guillaume, au moment où on enregistre, Sky Italy a annoncé que Steven Zonzi devrait être prêté également à Galatasaray. Il s'agirait, comme pour Karsdorp, d'un prêt gratuit. Petite précision qui me semble nécessaire. Lors de l'été 2017, Monchi a fait venir Karsdorp pour 14 millions d'euros plus 5 de bonus. Lors de l'été 2018, Steven Zonzi est arrivé pour 26,6 millions d'euros plus 4 de bonus. Coût total des deux opérations, 40,6 millions d'euros plus 9 de bonus. Deux ans et un an plus tard, pour les deux joueurs, ils partent en prêt gratuit dans des destinations inférieures, évidemment, au club où ils étaient jusque-là, Galatasaray et Feyenoord. Voilà qui explique aussi pourquoi la Roma, cette année, ne peut pas recruter comme elle le voudrait, mais parce qu'il y a eu des opérations financières calamiteuses qui ont été faites ces dernières années, qu'il faut les assumer maintenant et que, en plus, dans une saison qui s'annonce sans Ligue des Champions,
exactement,
il n'y a, ouais, pas les entrées d'argent nécessaires pour faire le mercato souhaité.
Côté venu, qu'est-ce qu'il manque à la Roma?
Côté venu, il manque pas mal de choses. Je pense que c'est le club qui est le plus en retard dans son recrutement.
Ouais.
Alors ça peut paraître étrange puisqu'on fait quand même venir Paul Lopez, Spinazzola, Diawara, Mancini et Verretou qui sont en soi 5 recrues plutôt pas mal. Alors Paul Lopez on attend de voir, mais pour les autres c'est des valeurs sûres quand même de Serie A. Pour moi, hein, ça n'engage que moi, il manque absolument un défenseur central. Tu ne peux pas faire la saison avec Fazio, Rezus et Mancini, qui va découvrir aussi ce niveau-là. Les pistes principales, ça reste Alderweireld, Rugani et Lovren. Alors, on annonce ce mercredi, Lovren est assez proche de signer à la Roma. Moi, ça m'étonne un peu, puisqu'il y a quelques jours, Paulo Fonseca, à la fin du match contre le Real Madrid, a quand même annoncé qu'il voulait un défenseur central rapide. Donc, c'est clairement plus l'opposé de Lovren. Voilà. Pour moi, il manque un latéral droit parce que je ne peux pas concevoir que la Roma reparte encore une saison avec Florenzi à droit, dont ce n'est toujours pas le poste depuis 4 ans. Et on le voit encore lors de cette pré-saison. Ce n'est pas son poste, ce n'est pas possible. Donc, il manque un latéral droit. Les pistes Zappa Costa et Isai. Et puis, Petrachi avait dit en conférence de presse que si Nzonzi partait, il y aurait peut-être un milieu assez jeune qui viendrait renforcer l'équipe. Donc sans doute un milieu et puis un attaquant, il manque un attaquant si Dzeko part. Alors là c'est Icardi, Higuain, voire Milik, c'est le fameux jeu de domino dont tu parlais tout à l'heure. Et moi je considère également qu'il manque toujours un ailier supplémentaire.
Il manque plusieurs choses quand même
dans cette équipe, donc c'est pour ça que je te dis que il y a 3 postes essentiels pour moi où il y a personne. Donc c'est pour ça que pour moi, la Roma est le club qui est le plus en retard dans son recrutement.
Si en plus ils se séparent de Dzeko, ça va encore les mettre. Si déjà tu dis qu'il manque des joueurs à tous les postes que tu as cités, si en plus ils se séparent de Dzeko et qu'après il faut retrouver un attaquant, ouais. La fin du mercato promet d'être sympathique à la Roma.
Sachant que tu as des indésirables que tu n'arrives pas à faire partir pour le moment, comme Pastore, De Frel, Gonalon et Olsen, qui te prennent beaucoup d'argent sur ton
salarial. Pastore, un contrat assez sympa, je crois.
Hein. Ah oui, c'est un contrat très sympa, plus de 4 millions d'euros net annuel. Ouais. C'est un très bon contrat. Et puis Nzonzi, s'il part, ça économisera le salaire. Donc on sait que chargé, ça fait quand même 8 millions d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable, mais quand on a dépensé 30 pour le faire venir, le voir partir en prêt gratuit la saison suivante, c'est quand même signe que de deux choses. La première, c'est d'une gestion catastrophique. Et la seconde, c'est que la Roma n'en voulait vraiment plus pour accepter un prêt gratuit à Galatasaray à 10 jours de la fin du mercato.
Mais du coup, je te coupe 2 minutes. En fait, tu vois, je me rends compte de ça, c'est que le mercato de Monchi est totalement démantelé.
Complètement.
Tous les joueurs qu'il a recrutés, en fait, sont soit partis, soit un sens de départ.
Ouais.
Il n'y a aucun joueur. Quel joueur a recruté Monchi qui va dire qu'il est totalement en place à un poste titulaire et, honnêtement, si tu réfléchis.
C'est une bonne question. Ouais. Je suis en train de réfléchir.
Parce que Olsen aussi, hein, Olsen aussi sur le départ.
Il doit y avoir Kolarov, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, qui était un joli coup quand même en fin de contrat.
On a Kolarov, on a Lorenzo Pellegrini, mais bon, en même temps, c'était une option de rachat qu'avait mis la Roma avant, donc c'est pas vraiment une recrue à 100% non plus. Il y a Brian Cristante, mais bon, pour moi, il n'est pas indispensable à cette équipe.
Disons que les Nzonzi, les Olsen, les Pastore,
les Bianda, les Gonalon, les Karsdorp.
Ouais,
bien sûr. Bah, les deux Frel aussi, hein, qui est dans le lot. Voilà,
et du coup le dossier de Dzeko qui est quand même assez chaud, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'il va finir par avoir gain de cause et est-ce qu'on lui on sait qu'il veut vraiment partir alors qu'il fait quand même un super été, ou est-ce que tu penses que la Roma va réussir à le convaincre de rester, parce que je crois que son contrat finit en 2020,
oui,
si je ne m'abuse. Donc est-ce que tu penses que la Roma peut prendre le risque de ne pas le prolonger, le garder et peut-être le voir partir dans 6 mois, enfin du moins s'engager gratuitement dans 6 mois, ou est-ce que tu penses que le joueur va avoir gain de cause et partir?
Alors, plusieurs éléments. Le premier, c'est que déjà, si Dzeko avait été aussi consciencieux et impliqué la saison dernière qu'il ne l'est cet été, je pense que ça aurait pu changer pas mal de choses sur la saison de la Roma. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que la gestion de ce cas est quand même particulièrement maladroite parce que tu peux pas faire toute une pré-saison avec Dzeko attaquant et t'en séparer à 10 jours de la fin du mercato, sauf si tu arrives à recruter un cador derrière. Et le seul cador que je vois aujourd'hui qui est possiblement, mais difficilement, réalisable, c'est Icardi. Tout miser avec Dzeko, faire des schémas préférentiels, des circuits de passe, des circuits d'action offensivement avec Dzeko pour t'en séparer 10 jours avant la fin du mercato, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, effectivement, la Roma, c'est la ligne dure. Voilà, c'est 20 millions d'euros ou rien. Maintenant, c'est en gros, c'est même 20 millions d'euros plus Icardi ou rien. Je comprends cette logique-là. Si tu me demandes un avis à titre tout à fait personnel, je pense qu'ils ont raison de faire ça, parce qu'aujourd'hui t'as 10 jours de la fin, 15 jours de la fin du mercato, et que t'as pas 50 solutions, et surtout des solutions à la hauteur sportivement,
oui.
Quand Dzeko est en forme, pas Icardi, le Dzeko de l'année dernière, et aussi faisable financièrement, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la Roma n'a pas d'argent, donc enfin ou très peu. Donc c'est une situation qui est compliquée. Le garder un an de plus et qu'il parte en fin de contrat, si c'est pour avoir le Dzeko de la pré-saison,
moi,
pourquoi
voilà.
pas
ouais,
si c'est le saison de la si c'est le si c'est le Dzeko de la saison dernière, jamais ouais. de la vie. Et quel serait l'état d'esprit de Dzeko si son
voilà,
transfert
exactement.
N'aboutit pas? Quand on voit son état d'esprit de la saison précédente, je me pose pas mal de questions.
Je te laisse imaginer s'il a pas gain de cause et qu'il reste à contre-cœur. T'imagines la
Mais ça sera aussi parce que l'Inter voilà. n'a pas fait l'effort. Hein. Si l'Inter
plus.
Avait aligné dès le départ les 20 millions d'euros demandés par par la Roma, Dzeko, ça fait longtemps qu'il serait du côté de Milan. Hein.
Et tu vois, la Roma, la ligne quand même, comme tu l'as dit, tout l'été, dans tous les matchs amicaux, imagine, il se blesse. Il se blesse et il y a, on va dire, 2-3 mois de blessure. Enfin, 2-3 mois d'absence. T'imagines que le deal quand même pourrait capoter, enfin le deal en soi, le possible transfert pourrait capoter. Et en soi, ça mettrait quand même remettrait tout en cause. Donc, et est-ce que la Roma en interne a un autre numéro 9 à part Schick du coup,
Non, il y a que Patrick Schick. Il y a Grégoire Defrel actuellement, mais on sait que Defrel est destiné à aller.
Ouais, c'est vrai que Defrel est revenu. Ouais,
et est destiné à aller ailleurs. À la Sampdoria, ça a pas trop mal marché. Il était proche de Cagliaris, ils sont pas mis d'accord.
Mais disons qu'en vrai numéro 9, un peu, tu vois, un peu physique comme Dzeko.
Non, il y a personne.
Il y a personne. Ouais.
Non, en plus ils ont prêté le jeune Cellar qui marque but sur but avec la Primavera, ils l'ont prêté de mémoire, c'est en série B. Donc non, il y a absolument plus personne.
Bon, bah écoute, le mercato de la Roma va être
très agité parce qu'il y a des gros manques et il y a des gros dossiers qui traînent depuis un certain temps. Et là ils peuvent plus se permettre d'attendre ou de faire une saison moyenne parce que une saison sans Ligue des Champions tous les 5 ans, c'est économiquement tu peux le gérer. Deux saisons d'absence consécutive, là par contre ça devient très très compliqué. On passe au reste de la Serie A. Alors l'Atalanta, on aurait bien dit quelque chose de plus que la dernière fois, mais on va vous inviter à écouter le dernier podcast puisque il y a absolument rien de nouveau. Rappelons quand même que à titre personnel, je suis impatient de voir
oui.
Malinowski en Serie A, le milieu du Racing Genk, ou Genk, je sais pas comment ils le disent là-bas. J'ai vraiment hâte de le voir. Il y a Kertel qui a signé quand même,
ouais.
pour remplacer numériquement Gianluca Mancini qui est parti à la Roma. Mais voilà, pour l'instant, c'est quand même
évidemment
assez calme.
Et Muriel aussi, qu'on est
voilà, Muriel
voir.
qui a signé, Petagna qui est parti dans l'autre sens, Cornelius aussi est parti, ouais. et Kulusevski également. Du côté de la Lazio, bah, c'est pareil, il s'est rien passé du côté des arrivées, on rappelle. Vavro, Lazzari, Johnny, j'ai vu beaucoup de commentaires très élogieux sur les performances de Lazzari en match amical lors de la pré-saison. Donc ça sera évidemment à suivre. Et puis côté départ, il y a plusieurs départs. Il y a Milan Badelj qui est retourné à la FIO. Et puis on a les deux Portugais, Pedro Neto. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils sont portugais ou brésiliens. J'ai peur de dire une bêtise, je crois qu'ils sont portugais. Pedro Neto et Bruno Jordão qui ont signé à Wolverhampton grâce à l'ami Jorge Mendes.
Et Milinkovic qui du coup va visiblement rester.
En même temps, comme l'été dernier, on a fait croire que c'était qu'une question d'argent. Je suis pas persuadé.
Écoute,
je pense et encore plus cette année, je pense qu'il y a une question de performance et de profil aussi. Je sais pas ce que t'en penses.
Tu penses que les clubs intéressés, enfin qu'il n'y a pas 1000 clubs intéressés ou tu penses que son
Je pense qu'il y a des
profil.
clubs intéressés, mais pas à ces sommes-là. C'est-à-dire que la somme que demande la Lazio par rapport au niveau constaté du joueur sur 2 ans, il y a un
Bah,
delta qui est trop important.
surtout l'année dernière. Surtout l'année dernière où ça a été quand même compliqué, même si c'est repris.
Mais il fait une très bonne saison et une saison très moyenne. Donc quel est le vrai niveau? Celui de la première saison, celui de la deuxième, un juste milieu? Si c'est un
19,
juste milieu
90,
à
ouais.
80-90 millions d'euros, c'est pas possible.
Non. Bah, c'est le prix que la Lazio avait fixé. On sait que Manchester avait été très intéressé, notamment en cas de départ de Pogba, mais comme Pogba n'est pas parti, c'est pas le même profil, mais en tout cas, c'était Manchester considérait son arrivée de Milinkovic-Savic uniquement en cas de départ de Pogba. Pogba s'est pas fait, Milinkovic s'est pas fait, du coup, visiblement, il va rester à la Lazio.
Je vais te donner un exemple. Je pense que si au début du mercato, la Lazio avait dit Milinkovic-Savic partira en cas d'une offre entre 40 et 50 millions d'euros, il serait plus là.
C'est sûr, c'est sûr.
Mais aujourd'hui, c'est trop cher par rapport aux incertitudes qui entourent ce joueur. Milinkovic-Savic, s'il fait une très grosse saison 2019-2020, il y aura sans doute un nouveau décourtisant. Ça voudra dire que la saison dernière n'était qu'un épiphénomène et que sur 3 saisons il en fait 2 à un très haut niveau. Bon, tu peux comprendre qu'il y en ait une où ça soit moins bien passé. Mais actuellement, il y a trop d'incertitudes sur le niveau réel du joueur. Cagliari, Guillaume. Cagliari
Ah.
qui va quand même avoir un milieu de terrain, Nainggolan, Rogue, Nantes. Alors, Nainggolan arrive en prêt et Cagliari a juste à payer le salaire. Rogue arrive en prêt avec obligation d'achat. Et Nantes est arrivé contre 18 millions d'euros, qui est un investissement fou pour Cagliari. Concrètement, s'il y a des personnes qui connaissent moins le championnat italien que nous, qui écoutent ce podcast et qui sont par exemple férus de Ligue 1, Cagliari qui dépense 18 millions d'euros, c'est un peu comme si je suis en train de
Aïe,
chercher un club en même temps,
aïe.
un peu comme si Toulouse, ouais, Toulouse c'est encore trop gros, je pense.
Tu vas voir les tifosi du Cagliari sur le dos, hein. Moi, je te préviens, je vais me
Non,
ranger
mais
là-dedans.
je dirais, tu vois, c'est un peu comme si Reims dépensait 18 millions d'euros pour un joueur. Voilà, je pense que ça, aujourd'hui, c'est à peu près le même calibre. Et bah, ça pose question quand même. Mais en tout cas, c'est un super coup, hein, réaliser Nantes,
Aïe,
c'est
ouais.
un super joueur. Et ce
Et
milieu de terrain-là,
ouais.
il va falloir aller s'y frotter. Hein.
Ouais, le milieu de terrain est vraiment. Je vois même sur Twitter, les gens en parlent beaucoup. C'est que ce trio, Nandez, mais Nainggolan surtout, le retour de Nainggolan qui est quand même fou.
Ouais.
Qui aurait pu imaginer, je ne sais pas si tu te rends compte, mais qui aurait pu imaginer que Nainggolan qui a quand même fait Cagliari, Roma, Roma Inter, qui arrivait comme un roi à Milan, et puis bah, maintenant il se retrouve à Cagliari. Alors on sait que c'est un
Guillaume,
choix
c'est
aussi.
simple, hein. La Roma est en demi-finale de Ligue des Champions en 2017. Est-ce que en juin 2017, tu t'imagines que 2 ans plus tard, Nainggolan sera à Cagliari?
Exactement, exactement. On sait aussi évidemment que c'est lié au.
Pourquoi il y est? Mais...
Écoute, bah, on sait que c'est lié aussi, toi, à sa femme,
Bien sûr.
à sa famille. On sait que voilà les problèmes qu'il a, et on sait que voilà
Les
son
problèmes de santé
retour,
de sa femme.
exactement, son retour est lié à ça. Il voulait se rapprocher de sa famille. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je suis très curieux de voir ce que Nainggolan va proposer cette saison. S'il va remettre, on va dire un peu sa tête à l'endroit entre guillemets. Et redevenir le Nainggolan qu'on a connu. Alors certes, qui était déjà comme ça, mais qui était quand même, on va dire, peut-être plus pro à l'Inter, c'est qu'il s'est quand même perdu. Même dans l'extra-sportif, tu te rappelles, il avait été exclu du groupe à un moment.
Ouais.
Je crois que c'était en janvier dernier, si je ne m'abuse. Donc, voir ce qu'il pourrait proposer à Cagliari, voilà, moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai que ce milieu, honnêtement, sur le papier, écoute, c'est si tu enlèves les gros, on va dire les 5-6 grosses équipes du championnat, honnêtement, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de la saison, pour le
Ouais.
moment. Pour le moment.
Pour le moment, exactement. Du côté de Sassuolo, Guillaume.
Et en plus, tiens,
Oui,
je te coupe deux
dis-moi.
minutes, surtout Cagliari a réussi à garder Cragno, qui est quand même un
Oui.
super gardien. Et voilà,
Ils ont
l'avoir
gardé
gardé.
aussi Pavoletti, qui avait un peu de mercato.
Exactement. Exactement. Donc voilà, en plus
Ils n'ont perdu que Barella.
voilà, évidemment, en plus d'avoir recruté. D'avoir super bien recruté, ils ont réussi à garder leurs meilleurs éléments à part Barella. Donc, honnêtement, côté Cagliari, moi je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer. Vas-y, je te laisse suivre.
Alors du côté de Sassuolo, mon chouchou, la saison passée, il y a eu encore des départs. Di Francesco à la Spal et Boateng à la Fiorentina. Bon, Boateng n'y était plus déjà depuis janvier. Rappel, Lirola est parti à la Fiorentina, Sensi est à l'Inter et Demiral à la Juve. Du côté des achats, c'est évidemment quelques jeunes joueurs, mais ils ont réussi à faire venir deux joueurs que je trouve intéressants. Déjà, c'est Obiang, qu'ils ont rapatrié de Première Ligue, West Ham.
En la Samp.
Voilà, ils ont fait venir Traoré d'Empoli. Alors, c'est en synergie avec la Juve, et donc autant dire que s'il fait une bonne saison, derrière, il partira directement à la Juve. Mais un milieu de terrain, quand même, avec Obiang, Traoré et Duncan, ça me semble correspondre assez bien à l'idée de football de Zerbi. Et puis, après, ils ont fait venir deux jeunes en défense, Tolian de Dortmund et Gravillon, qui a été très bon en série B à Pescara la saison passée, de l'Inter, prêté par l'Inter. Donc pour l'instant, c'est des... Et Caputo aussi devant, qui, s'il arrive à scorer, résoudra le problème de numéro 9 de la saison passée. On sait que Sassuolo s'est créé un nombre incalculable d'occasions, d'opportunités, de situations, et n'arrivait pas à la mettre au fond, puisque Babacar a eu des problèmes, Matri...
Est-ce que Matri est toujours là, d'ailleurs ?
Oui, toujours là. Matri, c'est compliqué. Juricic a été aligné plusieurs fois en faux neuf, mais c'est pas un neuf. Donc voilà. Du côté de la Samp, il y a pas grand-chose à ajouter si ce n'est le départ de Denis Pratt à Leicester, qui est un vrai coup dur. Ils ont perdu quand même deux cadres, hein, Pratt et Anderson, sachant qu'aussi ils ont perdu des joueurs qui étaient en prêt comme De Frel et Tonelli et Saponara.
Côté venu, Yuval Camano notamment.
Ouais, il y a eu Murillo. Murillo, ouais, est venu de Valence. Léris du Chievo. Il y a Maroni, je crois, qui vient de Boca ou d'Argentine en tout cas. Il y a Torsby et Chabot qui viennent d'Eredivisie. Mais pour l'instant, j'ai hâte de voir. Il y a pas mal de nouveaux joueurs, mais j'ai hâte de voir ce que peut donner la Samp Made in Di Francesco. Le Torino, on n'en parlera pas parce qu'il s'est strictement rien passé. Bologne, on avait fait un focus la dernière fois, hein. Hormis Andreas Kovalsson, que j'aime beaucoup, l'ailier droit
Que tu conseilles de suivre.
Ouais, que je vous conseille de suivre. Il y a une grosse arrivée, donc c'est lui, et un gros départ, c'est Pulgar qui est à la Fiorentina. La Fiorentina qui a accéléré un peu son mercato avec les arrivées de Lirola, donc de Pulgar et de Boateng, et de Badel, le retour. C'est pas mal, mais je trouve qu'il manque encore des joueurs quand même dans cette équipe. Parce que mine de rien, il y a quand même des joueurs qui sont partis. Ils avaient beaucoup de prêtés. Il y avait Muriel, Eddie Milson, Miralas, Gerson. Il y avait pas mal de joueurs prêtés. Ils ont perdu aussi Victor Hugo, Saponara, etc. Donc je pense qu'il manque quand même encore 2-3 joueurs. Et notamment des certitudes de Serie A, parce qu'ils ont fait quelques paris avec Zurkowski, Terzic, des joueurs que je connais absolument pas. Mais je pense qu'il manque encore quelques éléments. Et puis, l'occasion de parler, Guillaume, on va finir là-dessus, de Super Mario. Enfin, qui n'a plus grand-chose de super pour le moment, mais dis-nous tout sur Mario Balotelli.
Écoute, Mario Balotelli, c'est simple, avait le choix entre Flamengo, qui faisait quand même une superbe offre, et de contrat, et pour son frère Enoch, qui aurait lui aussi eu un club via Flamengo, et la proposition de Brescia, son club, sa ville, et il a accepté, c'est tombé aujourd'hui, donc... ce mercredi 14 août 2019. Mais voilà, il va très probablement signer à Brescia. Alors, bon, pour Brescia, c'est un super coup, évidemment, parce qu'il y a évidemment le côté médiatique, mais aussi le côté affectif. Donc voilà, moi, je suis assez content, je vais pas te mentir, je suis assez content du choix de Balotelli, qui aurait pu quand même aller au Brésil. Et puis bon, entre nous, même si le championnat est très bon, disons qu'il aurait pu s'éviter, on connaît Balotelli, on connaît le personnage. On sait que médiatiquement, notamment en Italie, et avec les tifosi adverses, c'est toujours compliqué. Mais là, il a fait un peu le choix du cœur parce que, au niveau du contrat, c'est un contrat de 3 ans à 1 million d'euros net de salaire plus bonus et pourra atteindre un salaire de 3 millions d'euros. Donc, tu vois, c'est pas non plus. C'est quand même beaucoup moins que ce qu'il touchait avant.
Ah oui, ça change des prétentions habituelles de Mino Raiola pour Balotelli.
Donc les négociations sont allées hyper rapides avec Brescia. Donc voilà, moi je suis assez content du choix de Balotelli. J'espère que ça va matcher entre les deux. Je pense que on sait que Balotelli a aussi ce besoin de, on le disait tout à l'heure, mais ce besoin d'affect. Il a besoin d'être bien entouré, d'être aimé, d'être soutenu par les tifosi. Et honnêtement, où ailleurs qu'à Brescia, il aurait pu avoir tout ça. Donc, écoute, c'est un super coup pour Brescia, pour le championnat. Forcément, il va y avoir la curiosité de le suivre, on va pas se mentir, parce que Balotelli reste Balotelli, même comme si, comme tu l'as dit, il n'est plus super. Mais en tout cas, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que voilà, pour une fois, je trouve que le choix est, on va dire, assez intelligent. Il repart d'un club quand même qui remonte en Serie A, quand on n'a pas beaucoup de prétentions, qui va jouer le maintien. Donc écoute, moi, je suis assez content de.
Et Brescia qui a gardé Tonali d'ailleurs.
En plus,
pour le moment.
Gardé Tonali. Donc écoute, tiens, donne-moi ton avis sur Balotelli, mais moi, en soi, je suis quand même content de le voir à Brescia. Je trouve que l'histoire, en soi, est quand même belle.
L'histoire est belle et ça c'est important. Et puis de toute façon, je crois qu'il n'avait pas 50 000 choix non plus.
Non, en plus, évidemment.
On sait que Balotelli dans les grands clubs, maintenant c'est terminé. Pour diverses raisons, hein, sportivement, mais aussi c'est un joueur qui est compliqué à gérer. Et surtout, un attaquant qui ne court plus dans le foot de 2019, c'est compliqué. Il y a beaucoup de. C'est un sport qui devient de plus en plus physique et un attaquant qui ne court pas du tout sur les phases de transition ou phases défensives, phases de transition défensive en l'occurrence, c'est très compliqué. Donc oui, l'histoire est belle. L'histoire est belle et j'ai envie de te dire, elle est presque... elle aurait pu être encore plus belle si ça n'avait pas été quasiment l'unique choix pour la suite de sa carrière. Parce que Flamengo, bon, pourquoi pas, mais tu disparais totalement du panorama européen à cet âge-là. Je suis pas sûr que ce soit une idée brillante. Mais bon, retenons quand même qu'il va jouer dans le club de la ville où il a grandi. Et ça, c'est quand même sympa. Et donc, ça permettra de voir un Balotelli différent, sans doute. Et dans une équipe qui jouera pour lui.
Exactement.
Il sera aussi performant.
Il va devoir guider ses coéquipiers.
Ouais.
Voilà, parce que lui, il a forcément beaucoup plus d'expérience du haut niveau. Donc voilà, il va être aussi le leader de l'équipe. Donc il va avoir aussi, j'espère, ce devoir d'exemplarité et rester exemplaire sur le terrain. Voilà, c'est sûr que j'ai toujours peur, tu le sais aussi, tout ce qui va être aux alentours des critiques. On sait que ça peut aller vite avec Balotelli. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis content de le revoir en Serie A. Je suis content de le voir à Brescia. J'espère que ça va marcher. Forcément, avec Balotelli, on a toujours des doutes. Ouais. Mais bon, écoute, voilà, au moins, on va le revoir en Serie A. C'est sûr que c'est une attraction en plus, on ne va pas se cacher.
Voilà qui termine, Guillaume, notre podcast, notre deuxième podcast 100% Mercato. Alors, on reviendra donc première semaine de septembre, après les deux premières journées de Serie A. Et donc, à cette occasion, on ne fera pas la nouvelle formule dissociée entre partie thématique et partie actu. On fera vraiment un podcast d'actu pour recommencer la saison. Deux journées se seront déjà écoulées. Il y aura eu la fin du mercato, donc il y aura beaucoup de choses à dire. On fera encore un podcast 100% actu. Et après, on vous le rappelle, on va partir plutôt sur des podcasts mensuels. Un par mois, sachant qu'on ne s'interdira pas s'il y a des éléments très importants qui surviennent dans le foot italien de faire un podcast de plus si on a envie ou si le besoin s'en fait ressentir lié à un événement ou à un fait particulier. Et puis on fera quand même ça, on le garde, hein, on fera toujours le podcast, le gros podcast demi-saison et le podcast de fin de saison où on analysera beaucoup de choses. Mais voilà, on part sur un podcast mensuel et on se donne donc rendez-vous on va pas donner la date puisqu'on l'a pas encore totalement fixé, mais ça sera première semaine de septembre avec les deux premières journées. Guillaume, je fais le point quand même, je donne le calendrier de la première journée.
Vas-y.
24 août, Parme Juve et Fiorentina Napoli, qui sera déjà un match très intéressant. Le dimanche 25 août, 18h, Udinese et Milan. Ensuite, un vrai multiplex, puisque c'est toujours le cas lors de la première et de la dernière journée. Il y a quand même une vraie partie multiplex avec Cagliari-Brescia, Hellas Bologne, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio. Les deux équipes de Rome et de Gênes se rencontrent lors de la première journée. Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo. Et puis, en match décalé, le lundi, Inter-Lecce à 20h45. Et la deuxième journée, Bologne-Spal en ouverture, ça coince un peu le vendredi soir quand même, hein. Bologne-Spal 20h45. Le samedi, Milan-Brescia et le premier des deux chocs de cette journée, Juve-Napoli, dès la deuxième journée, samedi 31 août à 20h45. Le dimanche 1er septembre, le deuxième choc de la journée, Lazio-Roma, le derby romain. Et puis ensuite derrière, on déroule avec un deuxième multiplex le dimanche à 20h45. Atalanta-Torino, Cagliari-Inter, Genoa-Fiorentina, Lecce-Hellas, les deux promus, Sassuolo, Sampdoria et Udinese, Parme. Voilà pour ces deux premières journées. On se retrouve donc derrière. N'oubliez pas, on est dispo sur... plus ça va et plus je bafouille. Hein, il va être temps que le podcast se termine. C'est ça, quand on fait plus chaque semaine, hein, on perd un peu les repères et on bafouille un peu trop.
Les automatismes, on reprend.
Exactement, comme pour les footballeurs, c'est la pré-saison pour nous. N'oubliez pas, on est donc disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, etc., etc. Et puis n'oubliez pas les 5 étoiles aussi,
évidemment,
sur Apple Podcast. Évidemment, ça nous aide grandement dans la...
Et vos avis aussi sur tout ce qui est nouvelles formules, si vous avez des
idées. Exactement. Nos DM sont largement ouverts. On répond à tout le monde. Donc n'hésitez absolument pas à nous faire part de vos retours. Et n'oubliez pas, pour MPG, mon petit gazon, si vous voulez faire partie de l'aventure Calcio PP mon petit gazon, envoyez-nous un DM et on fera une ligue de 8 personnes, une série B auditeurs qui pourront monter en Serie A à la fin du championnat. Voilà, Guillaume, il me reste à te remercier.
Merci à toi. Merci
Guillaume,
à
on peut te retrouver sur Eurosport d'ailleurs.
Toujours, nouvelle saison, même média, donc
exactement.
Sur Eurosport.fr, ouais. Et d'ailleurs, on te retrouve aussi
et sur
Eurosport.fr.
Oui, sur Twitter aussi, Guillaume MP.
Et Johan Crochet, pour toi.
Voilà, sur Twitter, exactement. Et puis, j'en profite quand même pour donner une petite information. Je vais lancer un deuxième podcast sur le foot. Alors toi, Guillaume, t'es déjà au courant. Mais ça sera pas lié à de l'actu, etc. Mais voilà, restez attentifs dans les prochains jours, puisqu'il y a quelque chose de nouveau arrive. Voilà, Guillaume, on se donne donc rendez-vous début septembre, donc d'ici 15 jours, au final, ça arrive quand même très vite. Débrief du mercato, débrief des deux premières journées, et puis d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer, vos commentaires, vos remarques, vos participations à MPG, et tout ce que vous voulez, des petits gifs sympas, des chats mignons, etc., on prend tout, hein. Les buts de Totti, les buts de Paolo Maldini, etc., etc., on prend absolument tout.
Évidemment.
Merci Guillaume et à la prochaine, salut.
Salut à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.